Morning Edition from NPR News.
MCT Sandinga House.
Halliam Radio Rosana Piperis.
Produce ghetto in la radio.
So far, changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Deux alliés, deux salles, deux ambiances. Nous allons essayer de comprendre la réaction face à cette guerre des deux côtés parce qu'il y a Israël qui a pris l'initiative, qui connaît ses buts de guerre, qui les poursuit sans ciller. Il y a les États-Unis qui ont suivi, qui ne savent pas très bien donner leurs buts de guerre, qui improvisent aussi vis-à-vis notamment de leurs opinions publiques. Nous en parlons dans un tout petit instant. Est-ce que les États-Unis et Israël comptent également sur les minorités de l'Iran pour faire monter une révolte de l'intérieur? Pourquoi cette rumeur est-elle en train de monter? Nous demanderons à Frédéric Seitz qui remet le monde à l'endroit. Sous les radars du Moyen-Orient, il y a une actualité internationale qui tourne toujours, figurez-vous. Guillaume Audat s'en souvient. Pour nous, vous verrez que pendant ce temps, la Chine fixe sa feuille de route économique jusqu'en 2030. Et puis juste avant 19h, on a besoin de ce moment suspendu qu'est écrire le monde grâce à Ilana Mor-Youssef qui a quand même relu un livre qui parle de guerre pour illustrer l'actualité, mais d'un tout autre genre, vous verrez. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Allons-y.
אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה באיראן. חיזבאללה עשה טעות גדולה מאוד שהוא תקף אותנו.
We were having negotiations with these lunatics. Based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first.
On a voulu les mettre dos à dos, tous les deux, Benjamin Netanyahu, Donald Trump, que vous avez entendu. Lundi, nous continuons à frapper l'Iran avec force. Le Hezbollah a commis une grave erreur en nous attaquant. Et Trump qui répond, nous étions en train de négocier avec ces fous. Et compte tenu de la tournure des négociations, je pense qu'ils allaient attaquer les premiers. Entre ces deux alliés, leur compréhension, leur vision de la région, on a l'impression qu'il y a deux mondes. Bonsoir Ina Bassiste.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes correspondante en France pour Al Monitor et pour la radio Israël. Et bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de géopolitique, professeur à Sciences Po. La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer chez Odile Jacob. Et c'est vrai qu'il nous en faut des raisons géopolitiques d'espérer. D'abord ce contraste, Rina Bassi, je voulais commencer avec vous. Je me demandais s'il inquiétait Israël, si les journaux s'interrogent sur la fiabilité d'un allié qui est aussi flou dans ses prises de position.
Oui, bien sûr. Israël n'a pas caché ses objectifs. Disons que avant le 7 octobre, bien sûr, l'objectif principal était que l'Iran n'aura plus ce programme nucléaire du tout, avec un zéro enrichissement. Ça a changé depuis le 7 octobre, et avec bien sûr cette idée que peut-être on pourra aussi faire tomber le régime, ce qui va résoudre non seulement la question nucléaire, mais aussi la question des missiles balistiques qui deviennent de plus en plus inquiétants pour Israël, et la question de proxy.
Mais le flou de Trump, est-ce que ça vous inquiète à la fin de la guerre des 12 jours, enfin au bout de 12 jours de guerre, c'est Trump qui dit stop aux grandes dames de Netanyahou.
Oui,
est-ce qu'il y a une crainte en Israël que Trump vous fasse la même chose?
Oui, donc c'est justement pour ça. Donc Israël a cette objectif très global maintenant, de faire tomber le régime avec ces trois sous-objectifs. Mais l'impression, on n'est pas tout à fait sûr si le président Trump marche dans la même direction, parce que après tout, il a ouvert des négociations avec les Iraniens. Il avait l'idée dans sa tête d'arriver peut-être à un accord. D'abord un accord qui normalement n'aurait pas plu Israël. Mais maintenant, s'il privilégie l'action militaire, ça veut dire pas qu'il a renoncé justement à cette idée que peut-être il y aura un accord, peut-être plus tard, après que le régime sera affaibli. On n'est pas tout à fait sûr qu'il a les mêmes objectifs de faire tomber le régime.
C'est le moins qu'on puisse dire. On a vu d'ailleurs Frédéric Ancel au lendemain de la mort du guide, on l'a déjà entendu parler de nouveaux interlocuteurs, même si on sait très bien que ça n'existait pas, mais il en parle déjà. Un peu comme si au fond, il pouvait se dire on va se tourner vers quelqu'un d'autre, on va négocier le nucléaire, négocier le prix du pétrole, on sera content et ce sera terminé. Est-ce que ça parle pour le coup, contrairement à Israël, d'une incompréhension du terrain, une méconnaissance du terrain, quelque chose d'extrêmement mal anticipé. Est-ce que ça parle de ça surtout, en fait?
Ah, moi, je serais plus prosaïque. Je pense que M. Trump s'inscrit toujours, et c'était le cas lors de sa première mandature, et c'est le cas depuis un an, dans la dimension que je qualifie de mercantiliste absolu. En fait, lui, sa stratégie correspond à celle d'Israël aujourd'hui, c'est-à-dire casser les capacités de nuisance militaire du régime iranien, mais pas nécessairement le régime iranien, alors qu'évidemment pour Israël c'est un enjeu existentiel comme ça a été très bien dit. Je veux dire par là que sans cette capacité de nuisance et ou avec à la tête de ce régime extrêmement affaibli des gens, on va dire, plus pragmatiques ou plus modérés, Trump pourrait tenter d'envisager un Moyen-Orient. Mmh. Alors non seulement pacifié, beaucoup plus stable, mm-hmm. Beaucoup plus prometteur en termes de création de consortiums, d'investissements très importants. Et qui dit consortium et investissement et stabilité, dit davantage encore d'investissements aux États-Unis de la part d'États qui, à ses yeux, ne sont ni des alliés ni des ennemis, parce que ce garçon n'a ni alliés ni ennemis, il n'a que des clients et des fournisseurs, en l'occurrence très solvables, et je pense notamment à l'Arabie Saoudite. Et je pense donc que, je vous dis d'un mot, cette guerre s'inscrit au-delà, sans doute, d'une forme d'impréparation ou en tout cas d'une communication un peu erratique, voire de son imprévisibilité légendaire. Au-delà de ça, malgré tout, son objectif, il est toujours assez cohérent, on l'a d'ailleurs bien vu aussi au Venezuela et au Groenland, c'est le mercantilisme, c'est le fait de faire des affaires.
Je suis quand même frappé, là je lis cette dépêche, les ressortissants américains appelés à quitter l'Irak maintenant. On a l'impression que ils n'ont pas anticipé pour le coup sur l'extension sur l'Iran, l'Irak, a quitté l'Irak maintenant. On a l'impression qu'ils n'ont pas anticipé sur une extension du conflit, pas anticipé sur une probabilité même que leur base soit touchée. Est-ce qu'on n'a pas aussi ce sentiment-là, Rina Bassiste?
Mais je crois que surtout, ils ne croyaient pas d'arriver au premier coup. Ils ne croyaient pas à la succès justement de cette opération de tuer Ali Khamenei. Et si ça aurait échoué, on serait dans une autre cas de figure.
Mais est-ce que maintenant, c'est pas trop tard, si j'ose dire, pour les Américains? C'est-à-dire maintenant, Israël impose son agenda. Et les États-Unis ne peuvent plus reculer et ne pourront même plus dire stop, en fait.
Je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt qu'en Israël, on est très inquiète, justement, jusqu'à où le président américain sera d'accord d'aller. Mm-hmm. Vous avez évoqué cet appel aux Américains de quitter Bagdad. Ils ont maintenant des soldats qui sont morts, ils ont leurs alliés dans les pays du Golfe attaqués, peut-être ils n'ont pas compté d'arriver à une telle situation, donc oui, peut-être il y avait un manque de préparation de ce côté-là, mais le président américain, il a fixé une sorte de calendrier, disons qu'il donne plus ou moins 4 semaines pour arriver à terme à cette opération. En Israël, on se dit, ça peut aussi, il dit 4 semaines, ça peut être aussi 10 jours, 2 semaines, 3 semaines. On connaît très bien les échéances qu'il a mises sur la table pour l'Ukraine. Vous vous souvenez, 2 semaines, 48 jours, ce genre de choses. Et comme on ne sait pas à quel moment le président américain va dire stop, et Israël est déterminé de frapper le plus possible. Mm-hmm. Donc, il y a un rythme extrêmement élevé qui continue à être intensifié d'une heure à une heure, je dirais même, des frappes israéliennes en Iran, justement pour essayer de faire le plus possible avant que les Américains disent stop.
Le flou, c'est une stratégie aussi, hein, non, Frédéric Ancel? C'est précisément ce que dit Rina à l'instant. C'est une stratégie parce que du coup, on s'arrête quand on veut. Le flou, ça sert à ça.
Mais absolument. Depuis plusieurs jours, j'entends dire que les Américains n'ont pas de but de guerre. Non, pardon, ils ne les disent pas. Mm-hmm. Et là, on peut remonter à la très longue histoire politico-militaire de cette planète. Rarissimes sont les chefs de guerre, les chefs d'État et les chefs de gouvernement qui ont la naïveté de dire et de dire clairement leur but de guerre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, toujours pour vous répondre, l'imprévisibilité. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure elle est ici cultivée, ici tout à fait authentique chez Trump. En réalité, je pense que personne ne le sait, peut-être même pas lui-même. Mais ce qui est sûr, c'est que l'imprévisibilité peut constituer une véritable capacité dissuasive. Hein, c'est un facteur de dissuasion face à des adversaires ou à des ennemis qui savent parfaitement que, effectivement, ça a été très bien dit, d'un jour à l'autre, parfois d'une heure à l'autre, comme ça s'était produit lors de la guerre des 12 jours, avec cette fameuse méga-bombe envoyée sur une installation nucléaire en Iran par Trump, alors que quelques heures auparavant, il n'avait pas pris cette décision-là. Donc ça peut aussi jouer de manière favorable.
Mais est-ce qu'on a déjà vu, quand même, dans un conflit, est-ce qu'on a déjà vu deux alliés, une alliance commune, mais pas d'objectif commun? Est-ce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire, monsieur le géopolitologue? Est-ce qu'on connaît ça?
C'est même le cas dans la quasi-totalité des schémas. Absolument.
Ah bah
les stratégies peuvent être similaires. Par définition, entre alliés, a priori, s'ils entrent en guerre communément, concomitamment, en général, la stratégie est la même. Mais l'objectif, pas nécessairement. Et en réalité, quasi mécaniquement, l'objectif suprême n'est pas nécessairement le même. Et si vous voulez, c'est en fonction de ce qui se passe sur le terrain, en fonction des avancées des uns et des autres, que une fois devant le tapis vert des diplomates et lorsque les armes se sont enfin tues, chacun, regardez ce qui s'est passé en 18, ça a été vraiment, enfin c'est le paradigme absolu, en 18 et en 19 après la Première Guerre mondiale, chacun avance ses pions et révèle réellement quel aura été son objectif final.
Alors après, il y a un point commun entre ces deux dirigeants-là, c'est qu'ils divisent leur population. C'est un problème pour Trump. Est-ce que ce n'est pas du tout un problème pour Benjamin Netanyahou ? Là-dessus, c'est bien la différence entre Israël et les États-Unis. L'opinion publique, en ce moment, au moment où on se parle en Israël, ne sera jamais un problème pour Netanyahou ?
Disons, dans l'absolu, c'est un problème pour lui, parce que c'est quelque chose, on a vu ça les dernières élections, qui était toujours, les sujets étaient Netanyahou. Et les sujets n'étaient pas la situation économique
absolument.
En général.
Sauf qu'il y a toujours une guerre derrière.
C'était vraiment des élections sur oui ou non Netanyahou. Et avoir dit ça, maintenant, avec la guerre, la situation est très différente. Et en Israël, de façon traditionnelle, quand il y a la guerre, tout le monde derrière les leaders, et c'est le cas pour Netanyahou, il le sait très bien d'ailleurs.
Mm-hmm. Et donc ça veut dire qu'il doit jouer sur l'énergie des Israéliens. Je dis ça parce qu'il y a quand même une fatigue chez les civils israéliens, une fatigue chez les soldats israéliens, une fatigue chez les réservistes qui repartent encore. Donc là aussi, il y a quand même une limite à ne pas dépasser, non exactement au fond, d'une manière différente, mais comme aux États-Unis, il y a une limite à ne pas dépasser avec son opinion publique quand même, ou pas ?
Oui, et la guerre de 12 jours, je pense pour beaucoup d'Israéliens, comme c'était aussi une guerre très conséquente et très, avec beaucoup de ressources qui étaient déployées justement. Et il y avait une espérance que ça y est, avec cette guerre, on va finir avec le programme nucléaire iranien. On va faire cet énorme effort encore une fois après les 12 ans qui sont découlés depuis le 7 octobre, tout ce qui allait avec. On va faire cet effort, on va y arriver. On arrive à la fin de la guerre de 12 jours, c'est pas la fin du programme nucléaire. Donc là, il faudra vraiment, et pour Netanyahou, je pense, pour le leadership israélien, que ça sera la dernière fois. On peut pas faire cette guerre de 12 jours, disons, si maintenant c'est la deuxième fois, on pourra pas le faire 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et la société israélienne est extrêmement résiliente. Tout le monde est derrière Netanyahou, y compris l'opposition politique. C'est très important à le souligner. L'opposition aussi soutient Netanyahou dans cette campagne militaire. Mais il faudra qu'il y aura vraiment que ça amène à quelque chose de tangible, que à la fin de cette guerre, on pourra dire l'Iran ne présente plus, au moins presque plus, une menace pour Israël.
D'où l'inquiétude que j'entends sur, du point de vue israélien évidemment, sur une fin que Trump décréterait. Après, il n'y a pas que Trump qui est embarqué là-dedans quand même. Il y a les monarchies du Golfe aussi, Frédéric Ancel. On a l'impression que, et c'est peut-être ça la grande victoire du moment de Benjamin Netanyahou, on a l'impression que le monde, cette partie du monde vit dans un monde Netanyahou là en ce moment. Et est-ce que c'est pas ça au fond en ce moment, la grande victoire?
Alors, il est clair qu'il y a une montée en puissance d'Israël, pas seulement sur le plan militaire, sur le plan politique dans la région, c'est absolument incontestable. C'est passé aussi, d'ailleurs, par la reconnaissance du Somaliland récemment, sur le continent africain. C'est passé par la protection de collectifs infranationaux. Je pense aux Druzes, par exemple, au sud de la Syrie. Mais c'est aussi passé par, y compris pendant les 2 ans de guerre à Gaza, extrêmement dur pourtant, c'est passé par le maintien des accords d'Abraham de 2020. Mmh. Les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Maroc, bien sûr, pour le Soudan dans une certaine mesure, sont restés malgré tout dans ces accords. Donc oui, effectivement, il y a un moment israélien, c'est incontestable, sachant que après le 7 octobre, de toute façon, le gouvernement israélien, l'état-major israélien et la population ont été tellement marqués, tellement traumatisés, qu'ils ont décidé, j'ai presque envie de vous dire que c'est pas tellement le 7, c'est le 8 octobre, lorsque le Hezbollah, à l'époque, entre en guerre, vraisemblablement sous les ordres de Téhéran. C'est à ce moment-là que l'état-major, que Netanyahou, le chef du gouvernement, que l'état-major, suivi par la population, décide de tout faire pour modifier substantiellement le Moyen-Orient, c'est-à-dire non pas pour remporter seulement une victoire tactique, mais une victoire stratégique.
Une toute dernière question pour vous, mais vous y répondrez aussi, Rina Bassi. Moi, je voudrais savoir, on a bien compris qu'il cherchait à redessiner effectivement la carte du Moyen-Orient. Mais est-ce que ça veut dire que, au fond, il est en devenant celui avec lequel on peut commencer à parler, avec lequel on peut même commercer, vous parlez des accords d'Abraham, ou est-ce qu'il est en train de le redéfinir en étant celui que l'on doit craindre, hein?
Ah, ça, c'est, ça renvoie à ce qu'a dit le président de la République française à plusieurs reprises d'ailleurs, mais y compris ces dernières heures. Pour être souverain, il faut être craint. Moi, je suis de ceux qui considèrent, comme géopolitologue, que la dissuasion, la capacité dissuasive, elle vous permet d'être effectivement craint. Aimer, non. Mais dans les relations internationales, l'amour, ça existe assez peu. En revanche, bien sûr, c'est le fait d'être craint. D'ailleurs, tous les accords de paix israélo-arabes, depuis Camp David en 78 jusqu'aux accords d'Abraham, ont fonctionné parce que Israël était devenu craint.
Est-ce que vous diriez, Rina Bassis, que c'est ça aussi l'un des buts de Benjamin Netanyahou? Nous devons être craints, si nous voulons être forts dans cette région, nous devons être craints, et ce que nous faisons là sera la démonstration que nous pouvons l'être.
Sûrement, et c'est intéressant parce que il y avait le porte-parole de Tzahal qui a souligné hier que les chefs d'état-major étaient en contact avec ses homologues dans les pays arabes. Et donc cette démonstration de Netanyahou qu'Israël est tellement fort, qu'Israël sait faire, qu'Israël a abattu Ali Khamenei, parce qu'à la fin c'était d'une certaine façon plus une opération israélienne qu'américaine, et ça a des conséquences au niveau stratégique avec les pays des Golfe qui sont en train justement de discuter, parce que ce sont des pays pragmatiques. Il y a la question de la diplomatie, il y a la question palestinienne, ça c'est une chose, mais d'abord la sécurité. Pour la sécurité, ils ont besoin d'Israël, ils discutent avec Israël même directement.
Mais justement, avec le risque dans la région, est-ce qu'Israël ne risque pas de devenir ce qu'était l'Iran jusqu'à récemment, c'est-à-dire l'acteur du chaos? C'est aussi un risque ou pas?
Ça, je ne suis pas tout à fait sûre. Ça, je crois qu'on exagère un petit peu peut-être de la force qu'on estime que Benjamin Netanyahou a quand même, parce qu'à la fin, c'est lui qui décide. Finalement, c'est le président américain, pas Netanyahou. C'est le président américain qui va convaincre les Saoudis, les Qataris, les Koweïts de se joindre à cette opération. C'est le président américain qui va décider quand ça commence et quand ça termine. Bien sûr, le premier ministre israélien essaye de profiter, mais c'est pas lui tout seul à la manette.
Après, Rina Bassiste, si cette guerre entraîne un chaos en Iran, c'est-à-dire si ça se termine pas comme j'imagine il le voudrait, mais que ça entraîne un chaos, ce qui est quand même une très large possibilité, est-ce que c'est moins dangereux pour Israël? Est-ce que c'est pas plus dangereux encore pour Israël?
Mais il faut voir qui sera. C'est une possibilité qui était toujours considérée. Parce que Khamenei, il était vieux. Et donc il y avait des réflexions justement sur cette question. Qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, son remplaçant, c'est pas juste son fils, mais les gardiens de la révolution,
mais
par exemple,
qui sont les relais? Voilà, c'est pour ça qu'aux yeux d'Israël, détruire le régime, en fait, ça veut dire quoi, au fond? C'est-à-dire, si le suivant, effectivement, ressemble au précédent, détruire, ça veut dire quoi?
Oui, qu'il faut absolument que la personne ou l'entité qui remplace le régime sera les gardiens de la révolution. Sinon, on n'a rien fait, on retourne à la même situation, peut-être même pire. Il faudra que ce sera, qu'il y aura une vraie démocratie en Iran. Les seules garanties en fait pour la sécurité d'Israël, mais plus que ça, c'est la garantie pour le peuple iranien d'avoir un avenir normal comme chez nous ici.
Sur le pari du soulèvement populaire, en fait, est-ce que c'est aussi un pari qui est fait par Israël? On a bien entendu, on sent les rumeurs monter aujourd'hui. On va pas déflorer ce que va nous raconter Frédéric Seix dans une seconde, mais il y a cette rumeur qui dit que et les Israéliens et les Américains essayent de pousser ce soulèvement populaire à l'intérieur de l'Iran pour qu'il se passe quelque chose effectivement politiquement. Est-ce que c'est l'une des clés pour Israël, ça?
C'est difficile à dire. Il y avait tellement des rumeurs déjà depuis l'assassinat d'Ismaïl Haniyeh à Téhéran sur l'ampleur justement de la présence israélienne cachée de Mossad ou d'autres agences à travers le pays. Donc c'est très difficile à savoir si ces gens ou des collaborateurs de ces gens sont aussi en train d'essayer de remuer les choses pour accélérer une révolution. Il y avait aussi et pas mal de publications ces derniers jours sur une implication israélienne dans un projet américain, justement, d'essayer de pousser les Kurdes iraniens, mais qui sont en Irak, justement.
Les Kurdes, les minorités, voilà, effectivement.
Mais ça, c'est pas pour les inciter d'aller dans les rues, ça, c'est inciter les Kurdes à prendre les armes contre les régimes. C'est difficile à dire jusqu'à quel point ces rumeurs sont vraies.
Et peut-être qu'on en saura plus un peu plus tard, évidemment, que tout ça est très compliqué pour l'instant. Rina Bassi, je vous remercie beaucoup de votre passage chez nous. Merci vraiment, merci à Frédéric Ancel aussi, qui a dû filer rapidement et qu'on remercie. La suite, c'est vous, Frédéric Seyss. Et ben, vous êtes pile dessus dans Le Monde à l'endroit.
Oui, pourquoi les États-Unis, précisément, veulent armer les Kurdes contre le régime iranien?
Et pendant ce temps, ailleurs dans le monde, c'est sous les radars, Guillaume Auda.
La musique adoucit les mœurs, paraît-il, et la peinture muscle nos cerveaux. Des scientifiques le démontrent avec de nouveaux travaux.
Voilà, et puis comme chaque mercredi, Lena Mor-Youssef, vous lisez et relisez au fil de l'actualité.
Eh bien, ce sera Les femmes dans la guerre grâce à Svetlana Alexievitch.
Allez, à tout à l'heure, les amis, juste après ça. Gorillaz, Orange County est dans la playlist de France Inter. Eh bien, par les temps qui courent, ça fait du bien de se remettre le monde à l'endroit. C'est votre mission, Frédéric Seyss.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et ce sera la continuité de la discussion que nous venons d'avoir. En Iran, Frédéric, les minorités ethniques sont au centre de l'attention des États-Unis.
Oui, comment faire rendre gorge au régime iranien? La question est brutale, mais elle s'oppose manifestement en ces termes à l'état-major américain aux côtés de son allié israélien. Il redouble de vigueur dans ses bombardements, cible politique, cible religieuse, cible sécuritaire, cible économique, mais pour l'instant, aucun signe de reddition des autorités iraniennes. Alors pour parvenir à déraciner ce régime, plus plusieurs options s'offrent aux États-Unis. Première possibilité, envoyer des troupes au sol en Iran. Donald Trump ne l'exclut pas. Mais cette option est incroyablement risquée dans un pays aussi vaste que l'Iran, aussi peuplé, 90 millions d'habitants, avec un relief par ailleurs aussi accidenté. Ça a tout du piège pour les GIs et l'opinion publique américaine, déjà très sceptique sur cette intervention, pourrait basculer totalement si elle voit revenir des cercueils enveloppés dans la bannière étoilée, comme lors de la guerre en Irak. Deuxième possibilité, un soulèvement populaire en Iran qui renverserait le régime. Pour encourager ce soulèvement, les avions israéliens et américains pilonnent les forces de sécurité iraniennes, les responsables de la répression. Troisième option, c'est d'encourager la rébellion des minorités iraniennes. C'est vrai qu'on le sait peu, mais l'Iran est une mosaïque ethnique. La moitié de la population est perse, un quart est azéri, 10% environ est kurde, sans oublier les minorités baloutches et arabes.
Et selon CNN, Washington compte armer les Kurdes et les encourager à défier Téhéran.
Oui, les États-Unis veulent utiliser le ressentiment des minorités contre le pouvoir central. Le soutien de la CIA aux Kurdes iraniens a commencé il y a déjà plusieurs mois, révèle CNN. Soutien aux groupes combattants installés de l'autre côté de la frontière, au Kurdistan irakien. Washington veut appuyer militairement ces groupes kurdes, les pousser à conquérir le nord de l'Iran. Pourquoi ? Eh bien parce que ça obligerait le régime à utiliser ses propres forces pour mater ce conflit intérieur. Conséquence, ça affaiblirait le maillage sécuritaire dans tout le reste du pays et ça encouragerait éventuellement les Iraniens à descendre dans la rue. C'est en tout cas ce qu'espère Washington. Alors conscient de ce danger, Téhéran a bombardé aujourd'hui les bases arrières au Kurdistan irakien, une sorte d'avertissement lancé aux États-Unis.
Alors quand même, pousser les Kurdes et les autres minorités contre le pouvoir iranien, Frédéric, c'est loin d'être certain cette méthode.
Oui, miser sur une coalition de tous les Kurdes de la région contre les mollahs iraniens s'est allé très vite en besogne. D'abord parce qu'il existe de nombreuses rivalités entre les groupes kurdes. Il y a aussi des intérêts divergents. Si vous prenez les Kurdes d'Irak, ils jouissent déjà aujourd'hui d'un gouvernement autonome. Ils sont maîtres chez eux. Ils n'ont donc aucun intérêt à se laisser entraîner dans une guerre. Nous sommes neutres, a d'ailleurs tenu à préciser aujourd'hui le vice-premier ministre de cette région autonome. Ensuite, les États-Unis devront dissiper la méfiance des Kurdes à leur égard. Méfiance instruite par l'histoire récente. En Syrie, Washington a soutenu les combattants kurdes contre Daesh avant de les abandonner en rase campagne. Voilà sans doute pourquoi aujourd'hui, c'est Donald Trump lui-même qui s'investit dans cette mission. C'est lui, depuis dimanche, qui a décroché son téléphone pour contacter les principaux responsables kurdes en Iran et en Irak.
Merci beaucoup Frédéric. Ça, c'est passionnant, on y reviendra. Le monde tourne pendant que la guerre tourne, figurez-vous. Il faut descendre bien bien sous les radars pour s'en rendre compte.
U.S. forces also taking part in military operations in Ecuador.
Car pendant ce temps-là, Guillaume Audat, Washington lance une opération avec les forces armées équatoriennes contre le narcotrafic.
Oui, selon le commandement militaire américain pour l'Amérique latine, qui pilote cette opération conjointe, la mission vise, je cite, à mener des actions décisives contre des organisations liées au trafic de drogue en Équateur. Alors, peu de détails ont émergé, tout juste dispose-t-on d'une courte vidéo publiée par le Southern Command. L'essentiel de la scène se déroule de nuit, elle est filmée en caméra thermique, on est dans un petit village, on distingue deux hélicoptères, des Black Hawk de l'armée américaine, sont des appareils furtifs utilisés en appui-feu d'une colonne de forces armées, sans doute équatoriennes. Alors il faut dire que Quito est entré dans une phase très active de sa guerre contre les cartels. Les autorités évoquent en effet l'aide de partenaires régionaux et donc de Washington, dont Daniel Noboa, le président équatorien, est un allié proche. Son pays, l'Équateur, est un nœud central du trafic de cocaïne vers l'Europe et les États-Unis. Environ 70% de la drogue produite en Colombie et au Pérou transite par des ports équatoriens.
À Pékin, ouverture ce mercredi du grand rendez-vous politique annuel, au menu les grandes orientations chinoises pour les 5 ans à venir.
Voilà, et en Chine, on appelle ça les deux sessions, soit deux réunions qui se tiennent chaque année au même moment dans la capitale, celle des deux grandes instances parlementaires du pays. Près de 3000 délégués sont attendus, prêts à garnir les rangs de l'Assemblée nationale populaire d'une part et de la conférence consultative du peuple chinois d'autre part. Officiellement, l'Assemblée populaire décide et la conférence conseille. En pratique, les deux organes valident les orientations déjà fixées par le Parti communiste chinois, lequel est dirigé par Xi Jinping. Le moment phare de ces deux sessions aura lieu demain, jeudi, avec le discours du Premier ministre Li Qiang. Il va dévoiler le prochain plan quinquennal qui fixe les grandes priorités de Pékin. Il devrait être question d'autonomie technologique, de soutien à la consommation, mais surtout de relance de la natalité sur fond de crise démographique qui, à moyen terme en Chine, menace lourdement la croissance économique.
These historic pictures and scenes can bring back memories.
Regardez, un tableau peut-il protéger notre cerveau ? Des scientifiques l'affirment et ils vont bientôt présenter leurs travaux.
Oui, ces recherches, elles seront discutées très sérieusement le 16 mars prochain à Maastricht, aux Pays-Bas, en marge d'une grande foire Beaux-Arts et Arts Contemporains, l'une des plus importantes du monde. Il sera question de culture également et de santé mentale. C'est une scientifique britannique, Daisy Fancourt de la University College London, qui viendra présenter son travail au grand public. Cela fait des années qu'elle synthétise une quantité phénoménale de données qui démontrent en effet que vous attardez devant une peinture, la regarder, l'admirer, l'éprouver, la comprendre ou ne pas la comprendre d'ailleurs, peu importe, et bien cela agit comme un véritable entraînement du cerveau, un peu comme si vous faisiez du sport, vous poussiez de la fonte, mais avec votre matière grise, et oui,
c'est moins fatigant.
De même avec la musique et au fond de toute activité culturelle, la littérature par exemple, une heure par semaine, c'est pas fatigant, affirme cette chercheuse, cela fait déjà la différence et cela réduit significativement les risques de démence.
Ah ben voilà.
Fabienne, on dit souvent que la culture ça sauve le monde, que la culture ça sauve des vies, mais sans véritablement avoir et ni savoir pourquoi ni comment, on a le sentiment que c'est abstrait. Eh bien maintenant, on sait tout ce que c'est du concret. Alors ce week-end, un seul mot d'ordre, tous au musée.
Allez, merci beaucoup Guillaume Audet. Ben justement, le mercredi, c'est celle qui, du coup, a un cerveau qui va la rendre centenaire, sans aucun doute, à force de, tous ces, de lire tous ses livres, c'est Ilana Morius, ça fait écrire le monde.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et cette semaine, Ilana, on parle de Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature 2015, et plus précisément de son premier livre, La guerre n'a pas un visage de femme.
Alors ce choix, Fabienne, c'est un peu le vôtre. Une fois n'est pas coutume, vous avez été un peu directive. Vous vouliez un livre qui parle de ce qu'est une société en guerre, ou des traces de la guerre dans une société. Et je me suis exécutée. J'ai pensé à La guerre n'a pas un visage de femme. Quand elle était jeune journaliste, Svetlana Alexievitch s'est demandé pourquoi personne ne parlait des femmes soviétiques qui ont combattu pendant ce que les Russes s'appelle la Grande Guerre patriotique, ce que nous appelons la Deuxième Guerre mondiale. 1 million de femmes engagées et pas un mot dans les livres d'histoire de l'époque. Et ce qui devait être un travail de quelques semaines a finalement duré 7 ans. Son livre a d'abord été interdit et aujourd'hui, il ne cesse de trouver des échos dans l'actualité, raison pour laquelle il a séduit la metteuse en scène Julie Deliquet. Elle en a fait un spectacle, d'abord joué au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, cet automne, et qui tourne en ce moment dans toute la France.
On dit que Svetlana Alexievitch est une femme oreille qui a un rôle d'accoucheuse. Svetlana, elle dit « Moi, je regarde pas la guerre avec les yeux d'une historienne, elle la regarde d'un point de vue émotionnel. » Ces femmes sont extrêmement complexes parce qu'elles sont tout aussi attachantes que choquantes aussi, des fois dans leur extrême patriotisme, des fois extrêmement dissidentes parce que le fait qu'elles n'aient pas entretenu une mémoire puisqu'elles se sont tues 40 ans en fait, vraiment Svetlana Alexievitch a mis fin à 40 ans de mutisme collectif. Elles se redonnent vie parce qu'en fait, elles avaient enterré leur propre jeunesse. On peut rire aussi parce qu'elles se moquent d'elles. Elles avaient 15, 16, 17 ans, donc elles disent que c'était aussi des dindes sur le front, c'est-à-dire qu'elles étaient aussi bien courageuses que à penser à des choses comme effeuiller des marguerites entre deux combats. Et du coup, il y a une sorte de mélange. On n'est jamais dans du didactisme, on n'est jamais dans un discours officiel. On est dans quelque chose d'extrêmement poreux, d'extrêmement humain. Cette œuvre, elle nous questionne en tant que fragilité humaine. C'est quand même rare d'être confronté à des œuvres de littérature si riches et qui passent quand même la barrière du temps.
Et alors, Ilana, vous avez eu la chance de le voir, vous, ce spectacle de Julie Deliquet, c'était en octobre.
Et oui, j'ai eu doublement de la chance, car ce jour-là, Svetlana Alexievitch était dans la salle, c'était donc un jour très spécial, et sur scène. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une kommunalka, c'est-à-dire les appartements communautaires de l'époque soviétique. Plusieurs femmes y sont réunies et elles vont évoquer tour à tour leurs souvenirs de la guerre.
Je me souviens du premier bombardement. J'étais au travail et puis tout à coup, les bombes. Et la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis précipitée à la crèche pour aller chercher ma fille. C'était vraiment très très concret. D'abord, on part au plus pressé, il faut aller chercher l'enfant. Et pour dire l'état de chaos, c'est que quand je suis arrivée, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus d'enfants. Les enfants avaient été emmenés ailleurs, m'a-t-on dit. Probablement, ils avaient été mis à l'abri. Mais qui, quoi il n'y avait que 2 éducatrices avec eux. Et puis, c'était vraiment des tout-petits-enfants. Moi, ma fille, elle avait 3 ans. C'était vraiment des enfants qui avaient de 1 à 3 ans, je dirais. Mais pour dire l'effet de choc dans la ville, c'est que j'ai mis 2 semaines à les retrouver. à retrouver des petits-enfants. Et quand j'ai fini par les retrouver, je les ai retrouvés, ils étaient couchés dans une maison, mais ils étaient couchés dans leurs excréments, avec de la fièvre, et on aurait dit qu'ils étaient morts. Et je me souviens très très bien de la directrice de la crèche, qui était vraiment une très très jeune femme, elle avait à peu près le même âge que moi à l'époque, elle devait avoir 22 ou 23 ans, mais ses cheveux avaient blanchi.
Voilà, ses cheveux avaient blanchi en l'espace de 2 semaines. Ce n'est qu'un des aspects de la guerre, puisqu'il y a aussi les femmes au combat, les femmes de retour du front, souvent mal vues dans leur famille, considérées comme de mauvaises mères, ayant abandonné leurs enfants. Et puis aussi cet aspect, les abus, les crimes sexuels sur le front. Et ça, c'est intéressant, parce que ce n'est pas dans le livre. Et quand Julie Deliquet a rencontré Svetlana Alexievitch, elle l'a interrogée sur cette absence. Et Alexievitch lui a dit, ce n'est pas que les femmes n'ont pas voulu parler, c'est que j'étais très jeune et je n'ai pas osé demander. Il reste, malgré tout, cet art de l'écoute qui est la signature de Svetlana Alexievitch. On peut l'écouter le 4 octobre 2025 au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis.
C'est très important de ne pas être prisonnier des banalités, de sortir de ces banalités. Donc moi et la personne que je viens rencontrer, je peux dire que nous faisons un travail ensemble pour aller en profondeur, aller chercher ce quelque chose de mystérieux, de caché, que cette personne, elle le sait. Moi, je ne le sais pas encore, mais j'ai très envie de savoir. Nous faisons ce travail ensemble et je suis très contente. Si, quand je pars, la personne me dit « Écoute, merci beaucoup, tu m'as fait dire des choses que je ne savais même plus moi-même que j'avais le souvenir de ça. »
Sortir des banalités, se souvenir de ce dont on ne sait pas qu'on se souvient. Est-ce qu'on ne devrait pas tous chercher à atteindre cet objectif?
Mais absolument. Ilana, vous êtes contente que je vous ai imposé ce livre, finalement?
Ravie.
Je vous remercie.
J'adore Alexievitch.
La guerre n'a pas un visage de femme, signé Svetlana Alexievitch, donc traduit du russe par Galia Ackerman et par Paul Lequen, disponible dans la collection Poche chez J'ai lu. L'adaptation au théâtre de Julie Deliquet est en tournée. Et cette semaine, si vous êtes à Dijon, vous avez de la chance parce que eux aussi. Merci beaucoup.